pour subvenir à ses besoins.
On est de retour dans Trudeau Landry, 10h26. Donc, je vous le disais, le vers 11h, on va annoncer encore une augmentation des cas assez importante, mais qu'on attribue beaucoup à la situation dans la capitale nationale, dans Chaudière-Appalaches et dans l'Outaouais, les hospitalisations également qui vont être en hausse. Par contre, on voit que la vaccination va s'accélérer, semble s'accélérer, notamment avec la clinique, les cliniques sans rendez-vous qui offrent le AstraZeneca aux personnes âgées de 55 ans et plus. On va faire le point avec l'épidémiologiste Nima Machouf, qu'on rejoint au téléphone. Madame Machouf, bonjour.
Bonjour.
Je vous en lance une facile pour commencer, Madame Machouf. Quand on regarde la situation,
il n'y en a pas de facile.
Quand on regarde comment la situation se développe, puis que je repense à certains des commentaires que vous, que certains de vos collègues ont fait dans les dernières semaines, ça arrive-tu que vous avez envie de dire, je vous l'avais dit que c'est ça qui arriverait?
Oui, elle est vraiment facile, celle-là. Vous avez raison. Mais le problème, c'est que on la voit arriver. Quand on la voit arriver, on n'est pas obligé d'attendre qu'elle nous tombe dessus avant de réagir. Surtout que quand elle prend de l'ampleur, là, ça devient beaucoup plus difficile de la contrôler. Et oui, c'est dommage. On prend pas les mesures au bon moment. Je comprends que le gouvernement veut donner un peu plus de liberté aux gens parce que les gens ont tanné. On est tous tannés. Mais justement, pour que ça soit plus facile, pour qu'on aille vers une liberté durable, il faut des fois serrer plus fort pendant une plus courte période de temps. Et non pas juste au moment où on sait que les gens vont se rassembler puis il y aura plus de proximité. Donner du lousse, c'était vraiment pas la chose à faire.
Mais expliquez-nous un peu comment elle se comporte, la troisième vague, parce que elle semble frapper très, très fort à Québec. On le vit, là, il y aura plus de 400 cas aujourd'hui. À Montréal, ça a l'air comme relativement stable. Là, il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux qui nous disent aussi, ouais, la troisième vague, elle frappe fort parce que c'est des patients différents aussi. Dressez-nous un peu le portrait à vos yeux de cette troisième vague-là, docteur Machouf.
Oui. Jusque-là, on a sécurisé les personnes âgées. Les personnes qui étaient le plus fragiles. Donc, on n'est pas inquiète de ce côté-là, parce qu'ils sont vaccinés et tout. Mais maintenant, les personnes qui s'infectent, c'est beaucoup dans les écoles, dans les garderies, dans les milieux de travail, où les gens sont concentrés pendant de nombreuses heures. Et le gouvernement, au lieu de nous sensibiliser sur la question de la transmission par aérosol et de nous dire faites attention à l'air que vous respirez à l'intérieur. Il continue à nous dire de laver les mains, garder nos distances. C'est bien de laver les mains et de garder les distances, mais c'est pas par les surfaces. On a compris maintenant que ce n'est pas par la surface qu'on va s'infecter, c'est par l'air qu'on respire du voisin qui est au bureau à côté. Alors, en sachant ça, il faut s'occuper de la qualité de l'air. On ne peut pas faire fi de cet élément hyper important et continuer à donner des libertés, plus d'ouverture aux gens et enlever le déconfinement, sachant qu'en plus, le virus qui est en circulation maintenant, c'est plus le même virus qu'on avait pendant la première vague, qui n'était par exemple pas transmissible par les enfants, ou beaucoup moins transmissible par les enfants. Maintenant, les enfants sont de super propagateurs du virus. Un enfant infecté dans une classe amène le virus à la maison et c'est presque garanti que tout le ménage va l'attraper. C'est plus comme avant. Donc, à ce moment-là, il faut prendre des mesures plus sérieuses, sachant que plus le bassin de personnes infectées augmente. C'est vrai qu'avant, il y avait moins de jeunes hospitalisés. Mais plus le bassin de personnes jeunes infectées augmente, plus les personnes aussi qui vont se ramasser avec des complications de la COVID vont augmenter. En termes de nombre, ça sera plus important. Et ces personnes-là, étant donné qu'ils sont plus jeunes, se battent plus longtemps. Les personnes âgées qui se ramassaient aux soins intensifs, on les perdait rapidement. Mais maintenant, les jeunes qui se ramassent aux soins intensifs, c'est des fois des semaines qu'ils restent là. Donc, la population a changé, le virus a changé. Il faut qu'on s'adapte avec nos mesures.
La clé demeure toujours le vaccin. Mais là, qu'est-ce qu'on sait sur son efficacité face aux variants? Bon, j'ai vu qu'il y avait de vos collègues à l'échelle de la planète qui disaient, ouais, bon, avec les variants, le vaccin pourrait devenir inefficace. En même temps, on dit, oui, mais ils peuvent l'adapter à partir du moment où on a la plateforme. Mais maintenant, dans l'immédiat, est-ce que le vaccin résiste aux variants?
Les vaccins qu'on a, on a 4 vaccins pour l'instant. On a Pfizer, on a Moderna, je parle du Canada. On a Pfizer, on a Moderna, on a AstraZeneca et Johnson & Johnson. Alors, sur ces 4 vaccins-là, Pfizer et Moderna n'ont pas été testés dans des endroits où il y avait des variants, donc on ne sait pas. On n'a pas de données pour voir s'ils sont efficaces ou pas. Étant donné que ce sont des technologies qui sont synthétiques, ils ont synthétisé ce vaccin-là, alors les compagnies nous disent on serait capable de s'adapter à la nouvelle variante. Sauf que les vaccins qui sont déjà produits, eux, ils ont été produits et testés selon l'ancienne souche. Donc, on n'a pas de données pour voir si réellement ils étaient efficaces ou pas. On espère qu'ils le soient. Il reste AstraZeneca, qui, lui, a été testé en... Johnson & Johnson, je n'ai pas l'information, donc je ne pourrais pas en parler. Mm-hmm. Mais AstraZeneca, lui, il a été testé en Angleterre et en Afrique du Sud, des endroits où il y avait des variants en circulation. Peut-être que, en partie, si son efficacité est un peu moindre que ceux de Moderna ou de Pfizer, c'est peut-être en partie parce que il était en essai sur des souches qui étaient mutées. Et si on regarde actuellement l'Angleterre et l'Afrique du Sud, comment ça se passe, mais les deux, ils ont très peu de cas présentement. Leur population n'est pas vaccinée en entier, mais pour l'instant, ils sont dans un creux de vague. L'important dans cette course-là, c'est que plus on est nombreux à se faire vacciner le plus rapidement possible, moins le virus aura un terrain pour se multiplier et éventuellement multiplier ses variants et développer d'autres variants.
En sous-question là-dessus, Dr Machouf, c'est en lien un peu avec ce que vous dites là. On regarde ce qui se passe chez nos voisins du sud des États-Unis. Bon, on recommence à faire des événements publics avec des spectateurs dans les stades sportifs, etc., etc. C'est sûr que là-bas aussi la vaccination, ça avance plus rapidement qu'ici. Mais est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, ils soient obligés de revenir peut-être à du confinement, étant donné les variants, puis étant donné l'inconnu encore?
Oui, c'est un peu trop tôt. On s'énerve, on se réjouit un peu trop. Ça marche, donnons-lui la possibilité de fonctionner à plein régime le vaccin. Donnons-lui l'occasion de montrer qu'il fonctionne. Au lieu de, dès qu'un peu de personnes sont vaccinées, on se réjouit, on dit là on peut ouvrir. Non, non, restons un peu plus confinés pendant un peu plus de temps, mais après, on s'en serait débarrassé. C'est soit ça, soit qu'on se donne un peu plus de misère maintenant pour une liberté durable, soit qu'on se dit, ben là, ça va bien, c'est contrôlable, on va souffler un peu plus, puis après ça, on va le traîner, notre vague, parce que la vague, elle sera là, les variants vont se disperser encore plus, puis on va avoir de la misère à la ramasser, la vague.
Si vous aviez un calendrier à établir, là, je comprends que ça pourrait pas être exact, là, mais en termes de semaines, de mois, un bon plan pour vous ressemblerait à quoi, là? Un confinement intensif pendant combien de semaines et pendant ce temps-là, on favorise la vaccination pour éventuellement penser pouvoir s'en sortir?
L'idéal, selon la théorie, les modèles théoriques et tout ça, le cycle de la maladie est de 2 semaines. Donc, on prend 3 cycles, donc 6 semaines, on se donne un confinement et on vaccine à fond la caisse et on donne partout des libertés là où il y a peu de risque de transmission, c'est-à-dire à l'extérieur. Partout où on peut ouvrir les fenêtres, on ouvre les fenêtres. Partout où on peut faire des activités à l'extérieur, on les fait à l'extérieur, au lieu de les faire à l'intérieur où on sait que le risque est 19 fois plus grand qu'à l'extérieur de se contaminer. Merci. Au lieu de dire on ouvre les écoles à temps plein et qu'on oblige tout le monde à aller à l'école, on peut dire que l'idéal, ce serait qu'on ferme les écoles pendant ces 6 semaines, mais si on veut ouvrir les écoles, que ce soit pas obligatoire au moins, que ceux qui peuvent rester à la maison, faire l'école à domicile, qu'ils le fassent à domicile, à distance, et ceux qui ne peuvent pas trouver un environnement calme pour pouvoir étudier à la maison, qu'ils s'en aillent étudier à l'école, déjà la densité d'élèves dans la classe va être réduite. Si on s'occupe de la qualité de l'air, ça va encore améliorer. Si on ouvre les fenêtres, on va encore s'aider pour éviter les transmissions. il faut penser que le virus, il se transmet par l'air. Donc, dès qu'on est dans un milieu fermé et l'air circule à l'intérieur, il ne se renouvelle pas, on pose les gens en situation de danger.
Merci beaucoup, Mme Machouf.
Merci à vous.
Toujours intéressant. Merci, Nima Machouf, donc épidémiologiste. Point de presse à 17h ce soir. Je reconnais un peu dans ce que Mme Machouf dit, ce que je partageais avec les auditeurs hier sur le CDC là, aux États-Unis, qui disait, oh oui, la désinfection, puis ça, c'est bien, là, mais le théâtre sanitaire, faut aussi parler de la ventilation. Ouais. Si on mettait autant d'énergie à désinfecter des classes que... si on mettait autant d'énergie sur la ventilation qu'on en met à désinfecter les classes, on s'aiderait davantage, dit-on.
Exact, exact. Puis la situation aux États-Unis, je sais, moi, il y a plusieurs auditeurs qui m'écrivent, « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça au Texas? Le stade plein, puis tout ça. » Puis il n'y a pas juste au Texas, il y a d'autres États américains aussi, on recommence à avoir des spectateurs. La situation est loin d'être élevée aux États-Unis. Quand vous regardez les cas par million d'habitants, c'est beaucoup plus élevé. Je parle pas du nombre absolu, je parle du nombre de cas par million aux États-Unis. C'est bien plus élevé qu'au Canada, là. Mais eux autres, ils font, à plusieurs endroits, le calcul que la capacité hospitalière est capable d'encaisser ça. Mais il y a rien qui dit qu'ils seront pas obligés de reculer non plus aux États-Unis. J'ai écouté le docteur Fauci hier en entrevue. Il a fait 2-3 entrevues hier, là. Beaucoup de prudence aussi dans ses propos. T'sais, la politique vient jouer là-dedans aussi aux États-Unis. Hein. Les États plus républicains, on déconfine plus vite. Les États plus démocrates sont plus un peu plus prudents en lien avec ça.
Ce qui est frappant, Jérôme, là, c'est que tu regardes la moyenne au bâton des spécialistes ici au Québec sur les grandes tendances. Je pense que ça nous plaise ou non, ils ont quand même une pas pire moyenne, là. Sur la première vague, qu'est-ce qui va arriver, la séquence, le ci, le ça. C'est pour ça que ma première question pouvait sembler même à la limite bête, là, de dire à Mme Machouf, puis ça arrive-tu de vous dire, hey, on vous l'avait dit? T'sais, les scientifiques, je pense souvent, se disent, quand on vous dit de quoi, là, c'est pas basé sur du vent, là, c'est basé sur la science, tiens, et sur du concret. OK, il est 10h38, on va s'arrêter. Au retour, c'est Myriam Segal qui débarque dans Trudeau-Landry.
Trudeau-Landry, de retour, après la pause.